Là. Bienvenue dans la jasette du barbu numéro 92. Aujourd'hui, j'ai plein de sujets pour toi. Je commence ça tout de suite avec une suggestion de documentaire que j'ai vu sur YouTube. J'aime ça trouver ces petits bijoux-là sur YouTube, ces petits trésors-là qui sont en plus gratuits. Fait que je trouve ça vraiment cool. Là, celui que je veux te parler, c'est pour les amateurs de bouffe, c'est pour les foodies. Ça s'intitule, tu vas taper là, dans l'onglet de recherche, Alain Passard, février 2010. En fait, ça raconte le parcours du grand chef français Alain Passard, qui a il y a seulement un restaurant, mais tout un, l'Asperge. Est-ce que c'est l'Asperge? Hey, là, je te dis ça, là. Je te dis ça là, puis wow, attends une minute. Je vais aller sur l'asperge à l'impasse. Attends une minute. Quel est le nom de l'arpège? L'asperge, ben oui. L'asperge, ben oui. Non, c'est l'arpège. Mais avant toute chose, avant de te parler de ça, j'ai été un peu vite là. J'ai oublié de dire que. Et ça commence sur les chapeaux de roue, ce show-là. Bon, j'ai oublié de te dire que la jasette du barbu 92 était une présentation, évidemment, de Chef Maison. Mon ami Chef Maison, Roger, vous pouvez le rejoindre au 438-872-9500. Oublie pas, il fait toujours le spécial, le forfait familial, 5 jours à 75$. Puis, cette semaine, il y a son fameux pad thai tofu qui offre dans le menu. Tu veux pas manquer ça. Et puis, cette semaine aussi, moi, je vais aller chercher mon menu au 10-30 à Brossard. Et puis, toi, si tu restes à Rive-Nord de Montréal, si tu restes soit à La Chute, à Saint-Jérôme, à Sainte-Sophie, à Prévost, à Saint-Hippolyte, ben moi, je vais te donner un point de chute si tu veux du chef maison. Je vais aller le chercher. Puis on va se donner un point de chute. Tu pourras me rejoindre via mon courriel au barbudeville@commercial.gmail.com. On continue le show. Donc, je te disais, Alain Passard, qui est un grand chef français, qui était reconnu à l'époque pour sa façon de faire du poulet. Lui, c'est un spécialiste du poulet. Ouais, les volailles, là, c'était vraiment un grand spécialiste en France. Puis une chose est sûre que... Quand on te qualifie de spécialiste en France d'un certain aliment, c'est parce que t'es bon en maudit, on s'entend. Ben lui, un jour, il est devenu blasé, comme il dit dans le documentaire. Il est devenu blasé à faire du poulet, de la volaille. Pourtant, son restaurant, l'Arpège, était un grand restaurant reconnu par le guide Michelin. Il avait ses 3 étoiles Michelin depuis longtemps. Ce qui, en passant, est un exploit. Là. C'est très difficile de garder ces 3 étoiles Michelin. Donc, lui, du jour au lendemain, il a laissé tomber la volaille dans le restaurant. Ça n'existait plus. Les menus de volaille n'existaient plus. Il a décidé de faire place aux légumes. Et seulement aux légumes. Rien d'autre. Ben, saviez-vous quoi? L'année d'après, Michelin a été faire son tour, comme à tous les années. Parce que c'est très, très rigoureux. Ben, il y a encore aujourd'hui ses 3 étoiles Michelin. Puis il est reconnu aujourd'hui à travers la France comme le plus grand chef des légumes. Je ne sais pas si je le dis de la bonne façon, mais peu importe, tu comprends ce que je veux dire, on se comprend. Ben, lui, c'est devenu le spécialiste des légumes. Puis il nous en parle avec amour, il nous en parle avec passion dans ce très bon documentaire. Documentaire qui a été fait pour la télévision, je pense que c'est TF1, je crois. Ouais. Ou Télé Plus, quelque chose comme ça. En tout cas, ben, je te le conseille. Bon, évidemment que si t'es français et t'écoutes ça, ben Ça a passé en 2017 à la télévision, ça fait longtemps, là. Mais pour nous, au Québec, moi, c'est la première fois que je le vois apparaître sur YouTube et j'étais bien content. Puis c'est seulement 30 minutes. Je te le dis, si t'es un fan de bouffe, tu vas adorer ce documentaire. Puis si t'es pas un fan de bouffe, peut-être tu vas aimer ça si t'aimes les gens passionnés. Lui, c'est un passionné, limite un malade mental. Ben, ça prouve, puis je dis ça, c'est pas péjoratif, ça prouve que dans la vie, là, quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois passionné. Que ça soit dans la cuisine, comme lui, que ce soit comme moi, avec Barbudeville, mes livres, que ça soit comme un réalisateur, il faut que tu sois à 100% dans ton projet, quitte des fois à... ça écorche du monde autour. Hein? Bon, moi, mon projet de Barbudeville, c'est une des raisons pourquoi je me suis séparé. C'est sûr que ça l'a pas aidé, là. Tu sais, toutes les soirées que je passais dans la cave à travailler sur Barbudeville, évidemment que ça l'a pas aidé. Maintenant, ce que j'essaie de faire, j'essaie de moins faire des 12-13 heures par jour, puis je me concentre dans le jour, le matin, quand les enfants sont pas là, quand je suis seul, le jour, l'après-midi, puis quand je vais chercher Théo à l'école à 3 heures, ben là, j'arrête. Je travaille maintenant, là, autour de 7h30 le matin à 3h l'après-midi. Puis ce qui est pratique, c'est que, mettons, je dîne, ben ça me prend pas une heure pour dîner. Là. Je mange vite fait sur le coin de la table, puis merci, bonsoir. Fait que je peux consacrer mon temps beaucoup plus à Barbudeville de cette façon-là. Là, il va falloir que je me donne plus de journées de congé, parce que je me rends compte que le samedi, ben je travaille aussi. Le dimanche, je travaille aussi. Encore pire, quand c'est pas ma fin de semaine avec les enfants, ben je travaille le vendredi, samedi, dimanche. Donc, ben ça, c'est une discipline que j'ai à me donner en tant que... Ça fait pas longtemps que je suis travailleur autonome, ça fait juste un an. Donc, c'est une discipline que j'ai à me donner, là. Je trouve pas ça toujours évident. Donc, je te disais, ben oui, c'est ça. Alain Passard, tu vas trouver, c'est un gars ultra passionné. Puis ça, moi, je trouve ça bien intéressant. Moi, ça vient me chercher... Parce que je suis quelqu'un de passionné, puis j'aime ça voir les gens évoluer à travers leur art, comment ils font pour transformer tout ça, puis lui, de la volaille, passer de la volaille aux légumes. Il m'a même rendu avec, en quelque sorte, il s'est engagé des maraîchers. Il y a des acres de terrain à lui, il a ses propres légumes à lui, donc il est très très passionné, puis c'est dans le souci du détail. Puis moi, je trouve ça bien important. On oublie ça des fois. Le petit souci du détail. Donc, va voir ça. Alain Passard, comment que j'ai dit que ça s'intitulait sur YouTube? Alain Passard, février 2017. Tu vas trouver ça bien intéressant de parler. En passant, j'aime beaucoup la nouvelle mouture de Yann Thériault. Yann Thériault, qui est un podcasteur, qui est un créateur multidisciplinaire, qui fait des toiles aussi. Qui est réalisateur du show Sous Écoute. Bon, Yann, il a fait le tour. Puis là, il est en train de faire une nouvelle émission qu'il essaye sur son podcast. Ça n'a pas de nom présentement. Là, c'est des pilotes. Il est rendu au pilote 24, je crois. J'aime beaucoup la formule. Bon, si tu veux mon avis, c'est un peu court, mais ça, c'est juste que j'aime ça. C'est positif, tu sais, comme commentaire. Mais sinon, j'aime beaucoup la nouvelle formule. C'est right to the point. C'est bien intéressant. Et puis... on en a presque à tous les jours de ce temps-là, fait que c'est bien le fun. Je te conseille fortement d'aller t'abonner au Patreon de Yann Thériault. C'est un gars qui travaille fort, puis je veux juste le souligner. Je pense qu'il mérite notre attention à tous. Moi, c'est quelqu'un qui me... C'était un autre passionné, là. C'était un autre bébite, Yann Thériault. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ma façon de faire et de pour faire mon podcast. C'est... clair que je le regarde aller, puis je le trouve bien intéressant. Après ça, qu'est-ce que... Ah oui! Après ça, le fameux UFC 258 dans fin de semaine. Hey, c'est rare que m'a dit ça, là. Mais tu sais, moi, j'ai pirate pas mes galas de UFC. J'exagère. Tu sais, moi, je suis un créateur de contenu. Fait que c'est sûr que ça me tenterait pas qu'on pirate mon Patreon puis qu'on me vole mes choses. Donc, moi, j'essaye le plus possible de pas faire ça. Je suis pas contre la vertu, là. C'est pas ça, là. Mais c'est ça. En fin de semaine, il y a l'UFC 258. Puis la finale, c'est Kamaru Usman contre son partenaire d'entraînement, Gilbert Burns. Gilbert Burns, que j'aime beaucoup, 19 victoires, 3 défaites, 7 victoires d'affilée, je crois. Ben, Kamaru Usman, 17 victoires, 1 défaite, 16 victoires d'affilée. Je pense que ça va être un combat intéressant, mais ce que je veux dire à propos du UFC 258, depuis un maudit bon bout, je pense que c'est le premier UFC que je ne vais pas louer. Ouais. Je trouve, pour, je regarde la carte, là, puis la carte qu'on a pour 66$, là, c'est pas, ça vaut pas ça. Ça, ça devrait être un UFC Fight Night qui coûte rien, là. Parce que regarde, la demi-finale, là, c'est un combat de femmes dans le flyweight entre Macy Barber puis Alexa Grasso. C'est pas digne d'une demi-finale. La finale est digne d'une finale, mais, tu sais, nonobstant, là, Kamaru Usman, oui, c'est un grand champion, mais il est très, très endormant à regarder. Il est ennuyant. Après ça, dans middleweight, t'as Kevin Gastelum contre Yan Inchin, OK. T'as Jim Miller contre Bobby Green. Ça, ça risque d'être un combat intéressant. Mais Jim Miller, tu sais, il a roulé sa bosse, là. Dans middleweight, t'as Pitolo contre Marquez, puis après ça, on tombe dans les prélims. Donc, tu vois, rien pour s'arracher la tête, là. C'est ça, le problème. Si ça serait un UFC Fight Night, je l'aurais regardé, puis j'aurais rien dit de négatif à propos de la carte, que j'aurais trouvé somme toute ordinaire. Mais là, c'est un gala payant à 60$, là. 61$, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui, là. Puis comme on choisit, qu'est-ce qu'on fait avec notre dollar loisir, mais moi, ce coup-là, je choisis de pas le... Non, c'est sûr que je ne l'achèterai pas. C'est trop cher pour rien. Donc, tu peux marquer ça dans ton calendrier. Le Barbu de Ville ne regardera pas le UFC 258. Ça, c'est rare en tabarnouche. Par la suite. Ben, c'est pas mal ça que j'ai à dire sur le UFC 258. Parce que, ben, c'est ça. J'aime pas ça être négatif. Puis, sûrement qu'il va y avoir des bons combats qui vont sortir de cette soirée-là. On verra bien. Mais, puis je souhaite quasiment... On va te faire une prédiction, là, mais c'est plus une prédiction de cœur que de tête. Je souhaite que Gilbert Burns y batte Usman. Ouais. C'est comme un champion... un champion, moi, de chaque... Disons, faut qu'il soit éclatant, tant chez les hommes que chez les femmes. Puis lui, c'est probablement le champion le plus endormant de tous les champions du UFC. C'est un peu dur dans mes commentaires, mais on verra bien ce qui va arriver avec Gilbert Burns. Je veux te parler aussi de J'ai du Temple et de son podcast J'ai du Temple discute. Première affaire qu'il faut que je dise, j'aime beaucoup J'ai du Temple qui me semble un humain. J'aime son parcours. Moi, j'aime beaucoup son parcours. C'est un gars qui a obtenu une popularité assez rapidement. Au niveau de son humour, je ne suis pas un grand fan, mais je respecte ce qu'il fait, évidemment. J'aime beaucoup son animation de OD. Je pense qu'il est à sa place. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Mais par-dessus tout, ce que je préfère de J'ai du Temple, c'est son podcast. J'aime beaucoup de la façon qu'il anime son podcast. J'aime beaucoup son choix d'invité. Dernièrement, par contre, je dois dire que l'insistance sur sa façon de parler des safe space, j'essaie de bien m'exprimer puis de bien me faire comprendre parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément, que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un humain, c'est un bel humain. Fait que j'essaie de bien d'exprimer ce que j'ai à dire sur J'ai du Temple. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais dernièrement, si je regarde ses invités, là, ça honnêtement, là, ça m'emmerde profondément. Là. On va aller voir les invités. OK. Kim Tui, aucun intérêt. L'entrevue avec Adib Al-Qaïdé. Adib, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais encore là, il y avait de quoi de pas mal... je sais pas. C'est une entrevue qui me gossait beaucoup, là. Comme si... c'est comme si les gars avaient trouvé des réponses à des questions. Ouais, finalement, je sais pas comment exprimer ce que j'ai à dire. C'est drôle, hein? Un petit côté... si je peux dire ça. Un petit côté bouddhisme à J'ai du Temple qui me tape ses nerfs. Ouais. C'est drôle à dire, hein? Personne n'est contre la vertu, là. Mais ouais, il y a un petit côté, là. Puis tant mieux pour lui, là, s'il réussit à atteindre le nirvana puis à être zen. Mais c'est un petit côté qui me tape ses nerfs. Ouais. puis je pourrais pas pinpointer. Je pourrais pas mettre le doigt sur pourquoi ça me tape ses nerfs, mais ça le fait. Donc, ce que ça fait pour moi, c'est que j'ai moins le goût de regarder son d'écouter son podcast parce que je le sais vers quoi qu'il va s'en aller. Là, tu vois, cette semaine, il a sorti une entrevue avec l'humoriste Preach. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Je vais sûrement l'écouter, puis je t'en donnerai des nouvelles, mais à la base, c'est pas une entrevue qui m'intéresse beaucoup. Même si Preach, c'est... encore là, c'est quelqu'un que de ce que je peux voir à travers l'écran, que c'est quelqu'un de qui me semble sympathique, en tout cas. Il semble une bonne personne. Donc, c'est ça. Petit côté zen bouddhiste, là, mélangé avec du Joe Rogan, là, ça devient... en quelque part, peut-être que je me trompe. Tu sais, j'ai aucune prétention, là. Vraiment pas. Mais des fois, je trouve que son discours, il est fauné. C'est ça que je veux dire. Peut-être que je me trompe. Probablement que je me trompe, puis je m'en excuse. Mais c'est l'impression que ça me donne. Mais je vais aller écouter Preach comme il faut. Je vais refaire mes devoirs. Tu sais, je me suis dit, on m'a parlé de ça, mais en même temps, je vais être honnête avec ce que je dis, puis c'est-tu vraiment ça que je pense? Je fais juste penser à voix haute avec toi, là. Je vais aller écouter l'entrevue avec Preach, puis j'aimerais ça que tu me dises, si toi-même t'écoutes J'ai du temps, discute, son podcast, j'aimerais ça que tu me donnes ton avis. Écris-moi au barbudeville@commercial.gmail.com, puis donne-moi ton avis. Ça va me faire plaisir d'entendre ce que t'as à dire là-dessus. Ouais, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur J'ai du temps, puis... Dernière chose que je voulais parler, ben je te reviens là-dessus, là. Je vais aller voir ce qui... l'entrevue avec Preach, puis je te reviens là-dessus. Dernière chose que je voulais parler, j'ai écrit un texte qui est sorti aujourd'hui, on est mercredi le 10 février, j'ai écrit un texte qui est sorti aujourd'hui qui s'intitule, je l'avais déjà sorti il y a 2 semaines pour les Patreons, là. Tu peux toujours t'abonner d'ailleurs, là, tu vas au patreon.com/barbudeville, ou va sur Patreon dans l'onglet recherche, écris Barbudeville, puis tu vas me trouver tout de suite, là. C'est pas cher, là, s'abonner au... C'est 3$, tu sais. C'est vraiment pas cher. Puis moi, ça m'aide beaucoup, là. Tu sais, je veux bâtir ma communauté, puis c'est important, là. Donc, viens donc m'aider. Ben, pas m'aider, m'encourager. Puis moi, m'a donné du bon stock, là. Ça va être win-win pour tout le monde. Ouais, c'est ça. J'ai écrit un texte qui s'intitule... c'est un hommage que je faisais à un joueur de baseball qui s'appelle Hank Aaron. Henry Hank Aaron, The Hammer, qui a joué longtemps à Atlanta. Puis lui, bon, ben, je t'apprends rien, là. Hank Aaron, c'est un black. Son record de, il a battu le record de Babe Ruth, il est connu entre autres pour ça. Le record a taffé bien longtemps, jusque dans les années 70, puis dans les années 20, Babe Ruth. 714, c'était ça le record. Lui, il a fait le 715e un soir, puis il s'est rendu à la fin de sa carrière à 755. Bon, Barry Bonds a battu ça, mais c'est pas reconnu. Il y a une étoile à côté de son nom. Il a fait ça avec des substances illicites, donc ça sera jamais reconnu. Et si vous voulez mon avis, celui qui a encore le record, c'est Hank Aaron. Donc, Hank Aaron, il est mort il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être 2 semaines. Et puis, j'ai écrit un papier sur... j'ai fait une chronique sur Hank Aaron. Puis dans le texte, j'y vais avec l'époque. Tu sais, lui, c'est l'époque... c'était pas juste... On parlait pas juste du racisme systémique, là. C'était autrement que ça, là. Tu sais, les Blancs avaient leurs toilettes, les Noirs avaient leurs toilettes. Dans l'autobus, les Blancs étaient assis en avant, les Noirs étaient assis en arrière. C'était comme ça, là. Lui, il a connu cette époque-là quand il a commencé à jouer à balle, là. Puis même, je te dirais que dans les années 70, quand il a, le soir qu'il a battu le fameux record de Babe Ruth de 714 circuits, le lendemain, il a reçu des menaces de mort, puis il était surveillé par la CIA, là, puis par le FBI. Je veux dire, il y a eu protection parce qu'il y a des gens qui voulaient le tuer parce que c'était un black qui venait de battre le record de Babe Ruth, un blanc. Ce qui est triste. Attends, on parle pas des années 1902, là. On parle des années 70, là. C'est pas si loin que ça, là. Je suis dans 73, tu sais. Donc, j'écris un texte qui rend hommage. Je parle de mon admiration pour Hank Aaron puis tout ce qu'il a fait pour le baseball majeur, tu sais. Je trouve que c'est immense ce qu'il a fait, autant que Jackie Robinson, tu sais. Pour moi, Hank Aaron, c'est comme Jackie Robinson. C'est comme Mohamed Ali. C'est à cette hauteur-là. C'est un grand homme, tu sais. Puis lui, il disait qu'il gardait toutes les lettres d'insultes quand il s'en allait vers le record de Babe Ruth pour se motiver. Fait que j'aime beaucoup son acharnement aussi. C'est un homme résilient. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour Hank Aaron. Beaucoup. Donc, Hank Aaron disait, c'est ça, que il gardait les lettres, puis tout ça. Puis moi, j'ai écrit un texte. Mais c'est sûr que si je me réfère à l'époque, ben, il l'a entendu mille fois, le mot nègre, lui. Puis je me permets de l'utiliser parce que c'est, je parle de ce texte. Puis on dirait qu'aujourd'hui, avec la... En 2021, on n'a pas le droit, tu sais. Puis ma correctrice, qui n'est plus ma correctrice, en passant, me disait, ben moi, je peux plus corriger tes textes parce que mon ex, c'est un noir, puis je trouve que ça fait offense, puis t'es comme bien offensé. Puis ben c'est correct, je respecte ça, puis je lui ai réécrit, je l'ai remercié pour ce qu'elle a fait pour moi, puis que je comprenais son commentaire, mais moi, je pouvais pas m'empêcher d'écrire, du moins, tu sais. Ben ce matin, j'ai publié le texte, puis hier, quand j'ai cédulé le tout, j'ai enlevé le mot nègre. J'ai gardé black, j'ai gardé noir. Moi, j'ai gardé black, j'ai gardé Negro League dans le texte, mais j'ai enlevé nègre. Puis je t'explique pourquoi je l'ai enlevé, parce que je veux pas de trouble, parce que c'est juste un mot, puis c'est un mot, puis moi je le prends pour ce qui est le mot. Moi, je pensais que ça avait sa place dans ce texte-là parce que ça parle d'une époque. Puis là, j'ai fait lire le texte à mon chum Roger de Chef Maison, qui lui trouvait le texte bien correct. Je voulais le faire lire à un black, tu sais, je trouvais ça important. Après ça, Guy Loduc, tu vois, hein, qui peut pas être plus blanc que Guy Loduc, là, d'un homme d'en fin quarantaine. Tu comprends ce que je veux dire? Un homme blanc d'Amérique du Nord, là. Mais lui, il est à contre ça, là. Il n'aurait pas mis le mot, tu vois. Hein. Fait que là, ça me donne une autre optique. Mais je trouve ça intéressant de brasser les idées. Puis là, l'idée que je veux brasser avec vous dans Josette du Barbu 92, c'est, nonobstant le mot nègre, c'est comme le mot nain, on n'a plus le droit d'utiliser ça, ou le mot tapette. Tu sais, moi, je me souviens dans le thème, on utilisait le mot tapette, c'était pas pour identifier quelqu'un qui était gay, souvent c'était pour, mettons qu'on jouait au hockey, puis quelqu'un pleurnichait, ben là, on le traitait de tapette. C'était juste pour dire que c'était un broyard, tu comprends? C'était même pas... C'est pas grave, là. Mais aujourd'hui, on dirait que... Mais là, je pense qu'on est rendu qu'il va falloir interdire... Moi, je suis pour la liberté d'expression, en tout cas, là. Puis, là, je pense qu'on est rendu qu'on va interdire des mots ou bannir des mots dans le dictionnaire. C'est complètement ridicule. Moi, je pense que le mot « nègre », quand il est utilisé dans un texte d'époque, a sa place. Moi, je peux pas traiter quelqu'un de nègre. Ben non, évidemment. Puis, j'accepterais pas ça de n'importe qui, là, je veux dire, c'est une insulte. Pareil, quand on parle des Amérindiens, puis qu'on dit que c'est des peaux rouges, ben c'est sûr que c'est une insulte. Mais si je me réfère à l'époque du Far West, ben c'est pas une insulte. Ça parle d'une époque. Puis je pense que c'est correct que le mot reste, aussi pour s'en rappeler. Pareil pour les nazis. On va-tu éliminer le mot nazi? Ben non. Non, parce que ça fait partie de notre histoire. C'est pour ça que c'est important d'apprendre son histoire pour savoir où est-ce qu'on va puis pour être conscient de ce qui s'est passé. Pourquoi je bannirais nazi? Ben non. Est-ce que je suis pour les nazis? Ben non, mais je bannirais. Pareil pour le KKK, le Ku Klux Klan qui pendait des Noirs à tous les semaines. Ben, faut en parler. Faut garder ça vivant dans le sens de s'en rappeler, de garder ça dans notre mémoire, ce qui s'est fait avant. En tout cas, moi, je trouve ça bien important. Et puis, je sais pas c'est quoi la différence entre un nain et une personne de petite taille. Je sais pas c'est quoi l'insulte. Faudrait qu'on m'explique. Un nain, c'est quoi l'insulte? Comme les gens, moi, qui me traitent, les Anglais qui me traitaient de frog, ça me dérange pas tellement. Nous, on les traitait à l'époque de tête carrée. Et puis, si on revient à l'histoire encore, tête carrée, on savait pas ce que ça voulait dire. Mais tête carrée, c'était... Ça parlait de leur terrain, en fait, où, sur quoi était bâti leur terrain. C'était des terrains carrés. C'était comme ça, les Anglais, à l'époque. On parle de 1800, 1700, puis tout ça, puis c'est resté, tu sais. Ou ils nous appelaient, aussi à l'époque, une époque plus lointaine, on mangeait de la soupe au pois, ils nous appelaient les pea soup. Pea soup, soupe au pois, qui est devenu pissou, qui s'est transformé au cours des années. Un pissou, c'est un Québécois. Donc, Mais je trouve ça intéressant, moi, de me rappeler de ça, que soupe au pois est devenue pissou, pissou est devenu pissou. Je trouve important, je trouve ça intéressant aussi l'histoire à travers ces mots-là. Pareil pour le mot nègre. Ben d'ailleurs, tu me donnes une idée, m'a faire une recherche là-dessus, puis je vais écrire un texte historique à propos du mot. Ouais, je vais essayer de faire de quoi avec ça. Mélanger là-dessus le premier noir au hockey, premier noir au baseball. Bon, on va essayer de mélanger tout ça ensemble, puis faire quelque chose d'intéressant. Sur ce, ben, hey, je t'ai assez parlé, j'ai plein d'affaires à faire là, aujourd'hui. Faut que je nettoie ma salle de bain, et puis regardable, le bol de toilette. Pas de bon sens, m'a dit, je suis un cochon. Fait que faut que j'aille faire ça. Puis à 3h, je vais chercher mon gars, j'ai bien hâte de le voir. Sur ce, ben c'était la Josette du Barbu numéro 92. Hey, oublie pas, Alex le Barbier, il est réouvert, hein? Tu peux prendre ton rendez-vous sur Internet. Tu peux aller bien facile, là. Tu vas sur Internet alexlebarbier.ca, puis tu vas pouvoir prendre un rendez-vous en ligne, puis tu vas avoir le numéro de téléphone aussi sur le site. Tu peux appeler, puis tu peux. Puis même, tu n'es pas obligé de l'appeler. Tu peux prendre ton rendez-vous en ligne, confirmer en ligne. Merci, bonsoir. Puis après, ils vont t'envoyer un beau message texto. Puis c'est super bien fait. Puis il y a un numéro de téléphone au bas aussi que tu peux appeler. Donc, n'oublie pas, le Alex le Barbier, il est réouvert. Donc, sur ce, moi, dire comme je disais dans le temps que je faisais du CB à la chute. Puis que mon surnom, c'était le Homard Rouge. Ben. Ah, tu connais la ritournelle, hein? Bien sûr. Poupoute, poupoute, chat.